saut lunatique, saut étourdi, saut sage, saut de ville, de château, de village, saut rassauté, saut niais, saut subtil, saut amoureux, saut privé, saut sauvage, saut vieux, nouveau et saut de tous âges, saut barbare, étranges et gentils, saut raisonnable, saut pervers, saut rétif. Notre prince, sans nul intervalle, le mardi gras jouera ses jeux aux halles.
Saute dame et saute demoiselle, saute vieille, saute jeune, nouvelle, toute saute aimant le masculin, saute hardie, couarde, laide, belle, saute frisque, saute douce, rebelle, saute qui veulent avoir leur pécotin, saute rotante sur pavé, sur chemin, saute rouge, maigre, grasses et pâles, le mardi gras jouera le prince aux halles.
Ce cri joyeux, mis en chanson par Pierre Gringor vers 1511, c'est celui qui peuple les halles de Paris au temps du carnaval. Ce sont alors les dernières saisons de ce qui fut tout au long du Moyen-Âge la grande fête du peuple.
Et nous y sommes presque, puisque tout autour de Mardi Gras, c'est déjà carnaval. Mardi Gras qui, cette année, se trouve être le 17 février pour ceux qui écoutent la première diffusion du samedi. C'est donc normalement l'occasion d'une grande ripaille, doublée de festivités et rites populaires, où toute la société communiait en folie douce. Bien loin de Dunkerque, Nice ou Rio, manquerait plus que le carnaval médiéval et déteint abondamment sur notre société actuelle. Bonjour et bienvenue dans cette 10e visite de la saison 9 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa 107.3 au Mans et radioalpa.com partout ailleurs. Avant de revenir au son de France Culture en mars 1972, histoire du carnaval entre folie et inversion du monde présentée par Claude Metra, j'ai intercalé des sons de mars 2025 de la chaîne YouTube Voyageurs de l'Histoire.
L'origine, dans la Grèce antique, les festivals dédiés à Dionysos impliquaient déjà des masques, du théâtre, du vin et de grandes festivités. Mais ce sont les Romains qui ont véritablement perfectionné le concept avec leur Saturnale et Lupercale. La Saturnale, célébrée en décembre, était une période d'inversion sociale totale. Les esclaves pouvaient donner des ordres, les citoyens ordinaires se moquaient des sénateurs et le vin coulait à flot. Quant aux Lupercales, organisées en février, elles comprenaient des rituels bien moins civilisés, notamment des courses où des prêtres à moitié nus fouettaient les passants pour les bénir avec la fertilité. Lorsque le christianisme s'est répandu, l'Église a compris qu'il serait impossible d'interdire ces fêtes populaires. Alors, comme elle l'avait déjà fait pour d'autres traditions, elle a décidé de les adapter au calendrier chrétien. Le résultat ? Le carnaval, une dernière occasion de se livrer à tous les excès avant la rigueur du carême. Ainsi, la fête s'est propagée dans toute l'Europe médiévale, adoptant des caractéristiques propres à chaque région. Mais une chose restait commune à toutes. Durant ces jours-là, tout était permis.
Sauts ivrognes aimant les bons copains, sauts qui crachent au matin, jacobins, sauts qui aiment jeux, tavernes et bas, tous sauts jaloux, sauts gardant les putains, sauts qui chassent nuit et jour au connin, sauts qui aiment à fréquenter le bas, sauts qui fêtent aux dames les choux gras, amenez-y sauts lavés et sauts sales, le mardi gras jouera le prince au hall.
S'il y a une chose que les médiévaux savaient faire à merveille, c'était transformer le carnaval en un véritable spectacle d'absurdité. La société féodale était extrêmement rigide, les nobles commandaient, les paysans obéissaient et le clergé dominait tout. Mais dès que le carnaval arrivait, tout changeait. À cette époque de l'année, dans de nombreuses villes européennes, les rôles étaient inversés. Les serviteurs pouvaient s'habiller en seigneurs, les prêtres devenaient la cible de plaisanteries et les mendiants accédaient temporairement à des postes d'autorité. Ce phénomène, connu sous le nom de fête des fous, impliquait même l'Église elle-même. Il n'était pas rare qu'un enfant de chœur ou un prêtre de moindre importance soit couronné évêque ou pape pour une journée. Sa sainteté donnait alors des ordres absurdes, comme obliger tout le monde à parler en vers, ou organiser une procession où chacun marchait à reculons. À Paris, par exemple, ce type de carnaval était pris tellement au sérieux que les clercs et fidèles organisaient de véritables messes satiriques, chantant des hymnes aux paroles détournées et prononçant des sermons totalement loufoques. Dans certaines régions, il était même permis de se moquer du roi en personne, chose impensable à tout autre moment de l'année.
Novus Anus, Nouvel An, extrait de la fête de l'âne par René Clémencic et son ensemble.
Sous-titrage
carnaval affirme l'immortalité du peuple. La peur et l'angoisse disparaissent parce que dans la folie carnavalesque, les hommes retrouvent la grande folie créatrice de la nature. Les rois et les princes, les sociétés et les lois, les servitudes et les tyrannies sont le visage éphémère de l'histoire. Le carnaval, c'est ce qui échappe à l'histoire parce qu'il est la noce joyeuse du peuple et de la terre.
Les carnavals modernes peuvent sembler chaotiques, mais ceux du Moyen-Âge atteignaient un tout autre niveau. Aux quatre coins de l'Europe, la fête prenait des formes inattendues, parfois même extravagantes. À Venise, par exemple, le port du masque permettait toutes sortes de frasques sans que personne ne puisse identifier les coupables. Il n'était pas rare que des nobles se mêlent au peuple pour commettre des excès qui, en temps normal, auraient été jugés inadmissibles. Certains murmuraient même que des espions du gouvernement profitèrent de la fête pour soutirer des secrets à leurs ennemis, tout cela sous l'anonymat d'un élégant masque de carnaval. En France et en Allemagne, les défilés avaient une touche plus provocante. D'immenses effigies, représentant des figures religieuses ou nobles, étaient promenées dans les rues avant d'être brûlées en grande pompe, comme un message bien clair adressé aux puissants.
Vers les 4e et 6e siècles apparut la légende du banquet de Cyprien, Cena Cipriani, qui n'est surtout pas Saint Cyprien, évêque de Carthage, possiblement un autre Cyprien bien français.
Le repas de Cyprien, c'est un banquet. On y retrouve maints personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament, depuis Adam et Ève jusqu'à Jésus-Christ. Et ce récit, l'historien russe Mikhaïl Biatkin l'a commenté à sa manière. Voici le récit qu'il nous donne de cette fête.
Les personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament s'installent à table selon les indications fantasques que peut fournir la Sainte Écriture. Adam a pris place au milieu des convives, Ève est assise sur une feuille de vigne, Caïn trône sur une charrue et Abel est appuyé sur une cruche de lait. Judas, bien sûr, sourit, une cassette d'argent posée sur ses genoux. La nourriture aussi est étrange. Adam mange une compote de pommes, et le Christ boit du vin aux raisins secs, et Saint-Pierre s'acharne sur le coq qui part trois fois l'a réveillé. Après le repas, Pilate apporte des rinces d'oie, Marthe fait la vaisselle, Madeleine prépare les lits, Hérodiade danse, Judas embrasse tous les convives, Noé cuve son ivresse sous la table. Le lendemain du banquet, chacun apporte un présent. Ève, un serpent, Moïse, deux tables de la loi, le Christ, trois agneaux, la Vierge, un drap. Mais bientôt, on s'aperçoit que durant le banquet, de nombreux objets ont été dérobés. Tous les assistants sont tour à tour soupçonnés et traités comme de misérables voleurs. Mais finalement, on rejette tous les vols sur la seule Agare que l'on condamne à mort et que l'on ensevelit en grande pompe.
Et si tout cela ne semble pas encore assez fou, en Espagne, durant la danse des morts, des hommes déguisés en squelettes envahissaient les rues pour rappeler à chacun que, peu importe le rang social, nous avons tous le même destin. Un message macabre? Sans doute. Mais aussi une manière de rappeler qu'il fallait profiter de la fête tant qu'il était encore temps.
Vous voulez une autre histoire du Père Mathieu? Allez, zou, direction le 11e siècle.
Saint Gauchelin, dans la nuit du 1er janvier 1091, revenait seul dans la nuit après avoir assisté un malade dans son agonie. Il vit venir au-devant de lui l'armée d'Arlequin. Arlequin est un géant qui a pour arme une massue monumentale et son armée est bien étrange. En tête viennent des hommes vêtus de peau de bête et portant sur leurs épaules des casseroles, des chaudrons, des balais et des soufflets. Derrière eux viennent des bons hommes dont on ne voit pas les visages et qui portent 50 cercueils. Sur ces cercueils sont perchés des êtres minuscules dont la tête est énorme et qui ont à la main de vastes paniers. Suit une multitude de femmes échevelées montées sur des chevaux et qui sautillent sur des selles garnies de clous incandescents. Viennent ensuite des curés et des moines, puis des soldats en armure, entourés de flammes. Gauchelin interroge l'une des femmes et il apprend que c'est le cortège des âmes errantes du purgatoire à la recherche du paradis. Ces femmes demi-nues qui souffrent maintes douleurs sont d'anciennes grandes dames qui eurent châteaux et vils amours. Les soldats entourés de feu sont d'anciens seigneurs qui eurent vastes biens et grands pouvoirs. Maintenant, ils sont déchus et châtiés, et leurs plaintes peuplent la nuit.
La vision de Gauchelin, c'est un monde à l'envers. Un monde où les hiérarchies se trouvent bouleversées, l'ordre de l'histoire aboli. Mais il arrive que cette inversion du monde Elles deviennent une forme de défense contre la mort.
Ce jour-là, un âne était conduit à l'intérieur de l'église et traité comme une figure sacrée pendant toute une journée. Le moment fort de la cérémonie survenait lorsque les fidèles, au lieu de répondre « Amen », poussaient un braiement en chœur. Oui, tel était le niveau des festivités médiévales.
Musique où l'on entend bien brer les ânes, Orientis Partibus 2, issu du disque Harmonia Mundi, paru initialement en 80, conduit par René Clemensic et son Clemensic Consort. Avec cette visite à Carnaval, c'est l'occasion pour moi, pour nous, de nous demander si dorénavant, nous ne serions pas entrés dans une période de grand carnaval par le grotesque tragique des énumérations d'informations à l'international, certes, mais pas seulement. Ainsi, je nous propose de commencer par Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, début février dernier sur France Culture.
La souveraineté grotesque, ça avait été défini par Foucault. On peut le résumer comme ça, c'est la force qui se donne en spectacle, conjuguée sans cesse à la théâtralisation, à l'histrionisme, à l'obscène, au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'on met sur la scène ce qui ne doit pas être sur la scène, c'est-à-dire le débordement, la démesure, la grossièreté, l'humiliation. On se souvient tous de Zelensky dans le bureau ovale, c'est-à-dire véritablement, on va mettre en scène l'indécence. C'est ça le pouvoir grotesque. Et aujourd'hui, elle produit une forme de jouissance, parce qu'elle s'acoquine avec le ridicule. Il faut savoir que le ridicule a toujours fait rire la plèbe en nous, si j'ose dire, le mauvais en nous. Le ridicule, c'est une manière de faire jouir le mauvais penchant du peuple. Ce rappel de Guy Debord sur la société du spectacle, là c'est encore un niveau de plus, je dirais, dans l'affaiblissement de la qualité attentionnelle, puisque c'est même plus spectateur, c'est voyeur. On est amené au voyeurisme. Donc le grotesque, c'est tout ça, c'est-à-dire, en gros, oser dépasser les limites, détruire le socle commun des normes. On voit que non seulement les normes dans les États nationaux sont attaquées, Trump, etc., mais le droit international, qui est d'ailleurs notre immense grande norme commune, elle est mise à mal. Et surtout, ce qui est terrible, c'est que le grotesque libère le grotesque chez chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'il vient produire un phénomène d'autorisation du pulsionnel. On va y aller, on y est déjà, parce que c'est une tentation terrible.
Carnival, celui de Kanye West, il y a 2 ans, en février 2024.
Go, 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 go. Grégory Bovino. Son nom tourne partout dans les médias américains. Greg Bovino, c'est le visage de la répression policière américaine, l'homme qui assume ses méthodes musclées et qui défend ses agents bec et ongle. Grégory Bovino, c'est le chef de la Border Patrol aux États-Unis. Depuis 3 semaines, c'est lui qui pilote les opérations de l'ICE à Minneapolis. Il est devenu le visage de l'inhumanité de ces opérations anti-immigration. On se souvient tous de cette photo qui avait scandalisé les Américains. Il s'était affiché crâne rasé en manteau militaire long, reprenant une esthétique qui en a mené certains à le surnommer Gestapo Greg. Greg Bovino, notre équipe l'avait filmé devant le QG des agents de l'ICE. C'était début janvier. Il était apparu en première ligne pour disperser les manifestants.
On a tous entendu parler de ce triste sire façon Inglourious Bastard dans un film de Tarantino, et ce sans rôle de composition. Comme ici dans Quotidien le 26 janvier, et là c'était le 20 janvier, une petite semaine avant donc, la chronique de Claude Eskolovitch sur Novo 19, la chaîne du groupe Ouest France.
Et c'est un manteau militaire qui rappelle la tenue des officiers nazis. On le voit là à une manifestation à Minneapolis. Il est le chef de l'ICE, la police de l'immigration. Et c'est le sujet de ton billet, Claude.
Bon, alors d'abord, on va être honnête. Hein. Traiter les gens de nazis au prétexte que leurs manteaux ont l'air d'être des manteaux nazis, c'est quand même aller un peu vite. Donc on va simplement essayer de comprendre pourquoi ce mot nazi ou un autre mot, Gestapo, c'était la police politique des nazis, sont couramment prononcés à propos de cette police américaine en uniforme militaire qui traque les étrangers et qui, à Minneapolis, a tué une mère de famille américaine. Alors ce mot nazi ou Gestapo, on l'utilisait chez les démocrates, mais maintenant on les utilise dans la mouvance trumpiste. Ainsi Joe Rogan, un rude youtubeur venu du MMA.
On ne veut pas de militaires qui rôdent dans les rues pour arrêter les gens dont beaucoup sont en fait des citoyens américains. Ils n'ont juste pas leurs papiers sur eux. On dirait la Gestapo. Montrez-moi vos papiers. On en est vraiment arrivé là ?
Alors Gestapo donc. Alors il est vrai que le parcours de Greg Bovino rappelle historiquement les petites mains du fascisme. Souvent c'était des demi-ratés auxquels soudain leur maître donnait le droit de persécuter des gens. Bovino en l'occurrence était un simple policier des frontières quand sa brutalité l'a fait repérer par l'administration Trump. Il est devenu le commander d'une police politique, oui police politique, parce que le pouvoir l'envoie spécifiquement dans des villes d'opposition, des villes démocrates. Ses troupes dans ces villes considèrent qu'une apparence ou bien un accent latino peut désigner l'ennemi. Ils ont aussi saisi des Native Americans, des Indiens Navajos. Il a une grosse activité hein, de communication. Monsieur Bovino, sur X Twitter, il se met en scène en Darth Vader qui combat les gangs et les défenseurs des migrants. Il poste aussi des films, des vidéos angoissantes où l'on voit des migrants clandestins qui menacent des enfants innocents. Et puis sur les réseaux, il affiche ses prises, il poste des photos humiliantes de migrants arrêtés. Et là, voyant ça, j'ai pensé à ce que les nazis, dès les années 30, je veux dire avant la Shoah, pouvaient faire à propos des juifs. Et du coup, l'esthétique de Monsieur Bovino commence à faire sens. Ce look Bovino fait écho aux esthétiques de ses maîtres et de ses soutiens. Tiens, par exemple, Monsieur Elon Musk, on venait d'en parler, hein. Monsieur Elon Musk, avec qui il partage un bras tendu, Monsieur Musk qui veut sauver les Blancs menacés de génocide et qui, avec ses compères milliardaires ralliés à Donald Trump, peut me rappeler, en plus idéologue, les industriels allemands qui s'arrangeaient bien de Monsieur Hitler. Est-ce que disant cela, je suis outrancier ? Il se trouve que depuis plusieurs mois, des observateurs utilisent à propos de Donald Trump deux mots allemands qui caractérisaient le nazisme. Le premier, c'est Lebensraum. Lebensraum, c'est la théorie de l'espace vital dont les peuples supérieurs ont besoin pour survivre. Eh bien, ce mot Lebensraum se glisse souvent dans des analyses sur la volonté de Trump d'annexer le Groenland. Le second mot, c'est Gleichhaltung. Ça décrit la mise au pas de la société allemande après 1933, la subordination systématique du pays à l'État nazi. Et du coup, les brutalités, les menaces de Trump et des siens contre des juristes, contre des journalistes, contre des opposants, contre des États, contre des villes démocrates qu'on menace de loi martiale, eh bien, ça ressemble un peu à une Gleichhaltung américaine en marche. Pour l'instant, c'est encore freiné par la culture de l'État de droit. Vous pourriez y ajouter le Führerprinzip, le principe du chef, puisque tout procède de Trump, auquel il faut obéir et qu'il faut flatter. Trump, il l'a dit au New York Times, ne se reconnaît pas d'autres limites que celles de sa propre moralité. Vous pouvez ajouter l'utilisation de la propagande et surtout la destruction du langage. Parce que vous avez dû le remarquer, Donald Trump parle un anglais horrible, cassé, incorrect. Eh bien, cette profanation de la langue, ça rappelle l'allemand indigne que parlait Adolf Hitler. Et ça, c'est une question politique.
Entre les deux, Novo 19 et Quotidien, une bonne nouvelle, entre guillemets, le retour forcé de Craig Bovino. De Greg Bovino dans ses pénates, rappelé par le pouvoir central, c'est dire s'il n'a pas fait du tout, mais alors, pas du tout, si ça ne l'a pas fait du tout, mais alors pas du tout du tout. Tout ça m'amène, avec un saut de puce, à aborder très brièvement une des bases du roman d'Orwell, 1984, La double pensée. sur, on y reviendra pour de bon dans une future visite parce que ça mérite, sont de la chaîne YouTube de Philippe Jean-Louis, posté le 9 janvier dernier, la double pensée d'Orwell ou comment manipuler la vérité.
Sans vie privée, la pensée indépendante devient quasiment impossible. L'esprit se conforme, non par contrainte, mais par incapacité à faire autrement sous le regard constant d'autrui. En acceptant des contradictions flagrantes, les citoyens apprennent à abandonner la logique, à renoncer à la raison, à croire tout ce qu'on leur dit, sans tenir compte des preuves. Comment cela fonctionne-t-il ? Orwell l'explique par l'intermédiaire de Syme, collègue de Winston et fervent défenseur de la novlangue. La double pensée désigne la capacité de maintenir simultanément dans son esprit deux croyances contradictoires et de les accepter toutes deux. L'intellectuel du parti sait dans quel sens ses souvenirs doivent être modifiés. Il sait donc qu'il joue avec la réalité. Mais par l'exercice de la double pensée, il se persuade également que la réalité n'est pas violée. Le processus doit être conscient, sinon il ne serait pas mené avec suffisamment de précision, mais il doit aussi être inconscient, sinon il engendrerait un sentiment de fausseté et donc de culpabilité. C'est un procédé sophistiqué. Il faut mentir consciemment tout en croyant inconsciemment au mensonge. Il faut savoir qu'on manipule la vérité tout en acceptant cette manipulation comme étant la vérité. Pourquoi est-ce nécessaire ? Parce que le parti a besoin d'agilité intellectuelle. La réalité est en perpétuelle mutation. L'allié d'hier est l'ennemi d'aujourd'hui. La vérité d'hier est l'hérésie d'aujourd'hui. Le parti a besoin de militants capables de changer d'avis instantanément sans éprouver de dissonance cognitive. La double pensée détruit également la notion d'hypocrisie. L'hypocrisie suppose de reconnaître un écart entre ce que l'on affirme et ce que l'on croit. Or, si l'on croit véritablement aux deux, si la double pensée est totale, alors aucun écart n'existe. On croit tout ce que l'on dit au moment même où l'on le dit. Cela rend le parti insensible aux accusations d'incohérence. Quand l'ennemi change, quand le passé est réécrit, quand les politiques changent, personne ne s'en aperçoit. Non pas par stupidité, mais parce que la double pensée empêche de le remarquer. Orwell a compris que le totalitarisme exige la destruction de la pensée logique. Si les individus sont capables de penser logiquement, ils peuvent déceler les contradictions, confronter les affirmations aux faits et constater les écarts entre la réalité et la propagande. La logique est dangereuse, il faut donc l'éliminer. Non pas l'interdire ouvertement, mais la rendre impossible par un entraînement à la double pensée. Le parti ne peut tolérer ceux qui restent fidèles à la réalité objective. Ils sont porteurs de raison dans un monde de folie organisée. Ils sont des infections susceptibles de se propager. L'avertissement d'Orwell est ici subtil. Il ne prétend pas que les habitants des États totalitaires sont stupides ou crédules. Il affirme plutôt que l'attaque constante contre la raison peut détruire la capacité de raisonner. Si, dès l'enfance, on vous conditionne à accepter les contradictions, si votre survie dépend de la suppression de la pensée logique, alors la logique elle-même peut être altérée. L'esprit humain est adaptable. Il peut apprendre à fonctionner de multiples façons. On peut l'entraîner à raisonner ou à accepter l'irrationnel. Le chemin qu'il emprunte dépend de l'environnement, de l'éducation et des pressions sociales. Les sociétés modernes sont constamment confrontées à ce danger. Non pas à cause d'états totalitaires manifestes, mais à cause d'érosions plus subtiles du discours rationnel. Lorsque la vérité se tribalise, lorsque les gens croient à des affirmations fondées sur la loyauté de groupe plutôt que sur des preuves, lorsque les contradictions sont ignorées par opportunisme politique, la double pensée fait son apparition.
Ainsi va se clore cette visite du Panthéon des Cousus à Carnaval sur Radio Alpa. J'avoue, quelques sons ont été accélérés un petit peu, mais aucun message n'a été trahi. Retrouvez-la en rediffusion, podcast sur les meilleures plateformes et réécoute libre sur radioalpa.com. Mais nous n'y quittons pas, sans musique et sans un tube de l'année 95, signé des Suédois The Cardigans, Carnival. Juste avant la délivrance et le charivari des habitants de Minneapolis à l'annonce du départ de Bovino. D'ailleurs, le charivari est une persistance du carnaval, là pour des mariages, ici pour justifier son urticante joliesse. Le tout en tapant sur des casseroles, par exemple. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa et n'hésitez pas à canaliser votre charivari.
Little man is going, we hear. Woo! How about it? Chant with me. Bye bye, little man.
Bye bye, little man.
Bye bye, little man.
Bye bye.
Had been officially in Minnesota, de-iced.
We are winning!
We are winning!
We are winning!
We are wishing Bovino bon voyage!